La nouvelle qui est tombée hier, c'est vraiment sans grande surprise là, que Washington a annoncé que l'accord Canada-États-Unis-Mexique, la CEUM, ne sera pas renouvelé cette année. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un processus de révision annuelle qui s'enclenche pour une période allant jusqu'à 10 ans. On en avait parlé en mars là, dans les semaines, dans les mois précédents. Le Canada, le Mexique voulaient reconduire l'entente pour 16 ans. Mais les États-Unis, de leur côté, disent vouloir corriger certaines lacunes. On dit vouloir réduire les déficits commerciaux avec les pays partenaires. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses? On en parle. Très content de la retrouver avec Sandra Aubé, vice-présidente Affaires fédérales chez TACT. Salut, Sandra.
Salut!
Je l'ai dit, là, c'est pas une surprise du tout. Ce qui est tombé hier, ça s'est seulement officialisé. Mais maintenant que c'est officialisé, ben là, c'est le temps pour vrai de passer aux prochaines étapes, d'avoir ces discussions-là. Mais d'abord, est-ce que d'en être arrivé à ce qu'on passe cette échéance-là sans avoir de deal avec les États-Unis, c'est un certain constat d'échec pour Mark Carney?
Ben, je pense que ça fait longtemps que ce constat-là a été fait, puis que le gouvernement a décidé d'amener les choses ailleurs. C'est sûr que Mark Carney a fait campagne là-dessus. Hein. Il y a plus qu'un an, là, il se positionnait comme la personne qui allait être capable d'aller chercher, de faire tête, de faire face à M. Trump. Puis deuxièmement, quand il a été élu, il disait « je vais aller chercher un deal rapidement ». Factuellement, il n'a pas réussi. Ça, c'est la réalité. Là, on peut pas aller contre ça. Maintenant, comme il y avait du positionnement depuis longtemps, du prépositionnement, on le voyait là, Dominique Leblanc, le ministre responsable de cette relation-là, Canada-États-Unis, quand il parlait, puis même M. Carney dans les jours avant, t'sais, on s'attendait pas à des feux d'artifice. D'ailleurs, il n'y a pas eu de feux d'artifice à Ottawa hier, d'aucune manière. Mais ouais, il y a pas de grandes surprises. Mais je pense que quand on regarde le contexte mondial, puis comment M. Trump se comporte, honnêtement, la façon dont ça s'est fait, c'est une déclaration hier là, c'est assez calme. Je pense que ça pourrait être pire. Ça pourrait encore devenir pire. Honnêtement, il y a eu tellement de soubresauts là-dedans.
Mais justement, à partir de maintenant, là, on parle du fameux processus de révision annuelle qui va s'enclencher. Bon, c'est ça, ça peut être pour une période de 10 ans. Fait que pour les prochaines années, ça va se passer avec Donald Trump, puis après ça, on verra. Puis d'ailleurs, on pourra revenir au après ça tantôt. Mais tu sais, pour l'instant, là, à partir de maintenant, c'est quoi la job de Mark Carney dans ce fameux processus de révision annuelle-là?
Ben un, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'accord existe encore. Puis je pense qu'un mot qu'on a entendu hier abondamment, c'est incertitude. Le fait qu'on ait ce processus de révision annuel-là, qui est un peu obscur là, pour tout le monde ici autour de la table. Mais ce que ça veut dire pour les entreprises, c'est que essentiellement, il va-t-il avoir un polichinelle, il va-t-il avoir une surprise qui va arriver, puis que là, on va avoir d'autres tarifs, on va avoir d'autres pressions, on va avoir comme d'autres revirements, c'est pas impossible. Maintenant, M. Trump, bon, il est là pour encore un bon 2 ans et demi, hein? Donc, il faut naviguer, il sera pas là pour toujours. Il reste que les changements qui sont mis en place sont importants. Donc, ce qu'on nous dit du côté des États-Unis, c'est qu'il y a des choses, effectivement, comme on veut réduire le déficit commercial avec le Canada, le Mexique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il semble avoir des discussions plus substantielles avec le Mexique depuis un moment. Du côté d'Ottawa, on dit on a encore l'accord, c'est vrai, on l'a encore pour 10 ans normalement, mais c'est ça, on n'a pas de certitude sur où est-ce que ça va aller, si on va réussir à faire lever des tarifs, si on va ouvrir plus de marchés aux Américains sur différentes choses, comme si on regarde le secteur culturel par exemple, même si on nous dit que c'est un peu une vache sacrée, t'sais, c'est où est-ce qu'il peut avoir du flex au niveau des produits laitiers, au niveau comme il y a différents éléments, fait qu'on va vibrer dans l'incertitude, mais chose certaine, ce gouvernement-là va vouloir avoir de l'engagement. Ils voudront pas, si je regarde politiquement, stratégiquement, on demeure avec un gouvernement à Ottawa qui est majoritaire, mais avec une petite majorité. Ils voudront pas être déstabilisés eux autres non plus quand ils vont avancer dans leur cycle politique. Donc, ils vont devoir être stratégiques avec l'engagement là-dessus et toujours continuer à tisser des liens avec les gens au sud de la frontière. C'est important.
Tu parlais, Sandra, du culturel. Quand le ministre canadien responsable du dossier, Dominique Leblanc, a envoyé une déclaration hier par rapport à la nouvelle, ce qu'il a dit, c'est que pour le Canada, ben, ça impliquait notamment des discussions de fond avec les États-Unis sur la question des droits de douane sectoriels imposés sur l'acier, l'aluminium, les automobiles et le bois d'œuvre canadien. Et là, ben, bon, hier, c'était fête nationale du Canada, une des beautés du Canada, mais à la fois un des problèmes, ben, c'est que t'as un paquet de provinces qui ont toutes leurs spécificités, qui ont leurs domaines qui sont plus payants. Inévitablement, on va finir par en arriver au point où le fédéral aura probablement pas le choix de choisir certains éléments qui vont plaire à certaines provinces, puis qui vont déplaire à d'autres. T'sais, quand on parle d'acier d'aluminium, ben là, ça vient toucher beaucoup le Québec. L'automobile, ça, c'est l'Ontario. Le bois d'œuvre canadien, ben le Québec qui serait impacté aussi, t'as nommé le culturel. Comment Ottawa va naviguer là-dedans pour mettre le moins de monde en Simonac possible?
Ouais, ben, au niveau... Encore une fois, je vais revenir avec la lentille politique. Au niveau politique, pour les libéraux, leur majorité vit beaucoup au Québec et en Ontario. C'est vraiment des endroits où ils peuvent faire des gains. Au-delà de ça, c'est quelque chose, je parle du volet politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus important. Notre économie, elle est affectée d'un bout à l'autre du pays par les mesures qui ont été mises en place. Effectivement, le secteur de l'automobile est super affecté. Puis quand on regarde l'acier puis l'aluminium, ça joue aussi là-dedans. Donc, c'est sûr, acier, aluminium, c'est oui, on parle beaucoup du Québec, mais ça touche aussi l'Ontario. Là, il y a des grosses aciéries du côté de l'Ontario. Donc, c'est des secteurs où ils vont vouloir aller jouer. Si vous regardez au niveau de l'automobile, on avait la ministre Joly qui était, je pense avec le ministre Sidou, en tout cas d'autres ministres fédéraux là, qui étaient en voyage récemment du côté de l'Asie. Ils ont été en Chine. Ils ont parlé de véhicules électriques. Ils essayent de ramener une usine de véhicules électriques ici au Canada. Est-ce que ce sera avec la Corée? Est-ce que ce sera avec l'Allemagne? Est-ce que ce sera avec la Chine? T'sais, je ne sais pas. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de ce côté-là pour venir développer d'autres liens puis ramener de la capacité industrielle ici. En même temps, quand on fait ça, c'est sûr que nos voisins au sud de la frontière, ils regardent ça puis ils disent « Veux-tu vraiment amener plus de véhicules étrangers dans ma cour? » Ils n'aiment pas ça non plus.
Je l'ai glissé tantôt. Il y a des gens qui ont comme vision que la stratégie en ce moment, c'est quasiment juste de résister, de tenir bon jusqu'à temps que Trump quitte, parce que ça va s'en venir. Puis, oui, il y en a qui disent « Oui, mais il serait capable de faire un autre mandat. » Puis, regarde, il n'est pas supposé. Puis les contre-pouvoirs aux États-Unis, j'ai tendance à leur faire relativement confiance. Est-ce que ça serait vraiment une bonne stratégie à adopter de « Hey, on va juste essayer de casser le moins de peau possible. On va faire avec les pétages de coche de temps en temps du bonhomme. Puis dans quelques années, on essaiera de rebâtir le plus qu'on peut une relation avec les États-Unis, avec qui on est condamné. C'est bien beau, la diversification de Mark Carney. Là. Mais on est quand même condamné à rester voisin avec les États-Unis. Puis on est condamné à ce que ça reste notre plus grand partner de deal.
Oui, puis ça va rester comme ça. T'as absolument raison. T'sais, on dit condamné, présentement, peut-être qu'on se sent un peu comme ça, là. Mais ça, c'est un élément qui va pas changer. Certainement qu'il y a une partie de la stratégie qui doit être d'attendre un peu. En même temps, ce serait d'avoir tout faux, je pense, que de se dire une fois qu'un président Trump, que des républicains seraient plus à la Maison-Blanche, tout reviendrait beau soleil dans la relation, puis que ce serait nécessairement vraiment mieux avec un gouvernement démocrate. Probablement que d'un point de vue de leadership politique, il y a plus d'affinités entre eux, mais de se dire comme si on avait eu un gouvernement démocrate avec Kamala Harris, comme ils avaient également beaucoup d'irritants dans la relation commerciale avec le Canada, ça aurait été difficile. Est-ce qu'on aurait été à la même place? Possiblement pas, parce que les techniques sont différentes, les techniques de négociation, d'engagement, mais il n'y aurait pas nécessairement toujours eu de l'amour. C'est juste que les frasques étaient moins publiques, comme les frasques démocrates sont moins publiques que celles qu'on voit du président Trump. Mais certainement, oui, il y a un élément où on dit on a quand même le meilleur accord. On va continuer à avoir des discussions. On va essayer d'aller chercher certaines concessions de leur côté pour venir essayer de ne pas tout perdre au jeu dans les secteurs que tu as nommés tantôt, là, le bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium, tout ça, secteur automobile. Mais il ne sera pas là toujours, ça c'est vrai.
Puis pour ces négociations-là, si par exemple le Canada décide durant le reste du mandat Trump, j'y vais peut-être un peu moins agressivement. J'essaye de peut-être un peu plus garder le statu quo qu'on a actuellement, qui n'est pas l'idéal, on va s'entendre. Est-ce que Donald Trump aurait des leviers pour essayer de mettre. Aurait des leviers qu'il n'a pas encore utilisés pour essayer de mettre davantage de pression sur le Canada?
Ben, je pense que la réponse, si on est réaliste, c'est oui. C'est qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, les États-Unis, c'est comme notre grand frère, notre très gros, gigantesque grand frère tout-puissant. Puis s'ils décident qu'eux, ils veulent subventionner, par exemple, plein d'industries pour venir chez eux, s'ils veulent rendre l'écosystème d'investissement super intéressant, puis c'est déjà ce qu'on voit, là, comme les entreprises qui devaient investir ici ou qui devaient investir dans d'autres pays, puis qui choisissent de le faire aux États-Unis parce qu'il y a une espèce de force de coercition, comme on ne peut pas compétitionner avec eux s'ils décident de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Donc, ils peuvent absolument nous faire très mal. Donc, je pense qu'il doit avoir, puis on le voit, là, le premier ministre Carney, à certains moments, va aller flatter l'ego du président Trump. On veut pas trop choquer. En même temps, entre vous et moi, si on fait des concessions, puis le Canada en a déjà fait, différentes concessions, est-ce qu'on a été rétribué pour ça? On n'est jamais rétribué pour les concessions qu'on fait.
En terminant, Sandra, puis je passe à un autre dossier, oui puis non en même temps. Là, ça vient, pas toute la politique fédérale va tout le temps être rattachée d'une certaine façon à ce qui se passe avec les États-Unis. C'est-tu juste une impression de ma part où Pierre Poilievre, depuis une couple de semaines, on le voit pas? J'ai l'impression que j'entends plus parler beaucoup de Pierre Poilievre, puis je me demande pourquoi.
C'est une bonne question. Probablement qu'il prend un peu de temps en famille après une session parlementaire où ils se sont cherchés. L'été, c'est un bon moment aussi. Comme une chose qui est toujours super importante au niveau de l'équipe conservatrice, c'est des gens qui sont très présents sur le terrain. Donc, tout le monde est dans sa circonscription. Mark Carney bénéficie beaucoup d'un spotlight, de la lumière, des projecteurs parce que avec tout ce qui se passe au niveau de la défense, avec tout ce qui se passe au niveau des États-Unis, puis bon, c'est le gouvernement, c'est plus facile d'avoir l'attention. Donc, il y a ça aussi. Donc, oui, peut-être qu'on le voit un peu moins, mais généralement, il va être très présent auprès des bases conservatrices. D'ailleurs, je pense qu'il y a le Stampede qui commence à Calgary dans les prochains jours. On va certainement aller voir là-bas.
Puis, Pierre Poilievre, est-ce que ça pourrait être... Parce que j'ai l'impression qu'au cours des dernières semaines, il martèle beaucoup... Il a beaucoup essayé de marteler le message de la récession, récession technique. Le Canada est le pire pays du G7. On est en récession. C'est le bordel. Est-ce que ça se pourrait que ce message-là fasse tout simplement pas son chemin qui était censé faire aux yeux des conservateurs?
Ben, ça se peut que, parce que c'est l'été, je pense que ça chemine peut-être un peu moins. Monsieur Poilievre a changé différentes personnes là, dans les rangs de son parti au niveau des critiques. Il a nommé un nouveau critique au niveau des finances, Monsieur Chung, qui est un parlementaire très expérimenté. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui arrive à ce niveau-là. Mais effectivement, ça ne semble pas résonner. Je pense que si on voyait des changements au niveau de la Banque du Canada, il n'y a pas eu de changement récent au niveau des taux d'intérêt. Si on venait augmenter les taux d'intérêt, si vous et moi, on le sentait encore davantage dans notre portefeuille, si on devait renouveler notre hypothèque, puis qu'encore une fois, là, ça partait en fou, ben là, on serait peut-être plus comme « Hey, comme ça a vraiment plus d'allure ». C'est déjà difficile, c'est difficile, mais stable. Puis en même temps, honnêtement, c'est dur d'argumenter avec Mark Carney, qui est une sommité quand on parle d'économie.
Sandra Aubé, vice-présidente d'affaires fédérales chez TACT. Je ne sais pas si on va se reparler dans les prochaines semaines, mais dans tous les cas, ben, je te souhaite un excellent été.
Hey, merci. Bon été à tous les auditeurs.
Salut, Sandra. Mathias Turcotte, on va aller faire un petit tour dans la circulation.
Oui, parce que les différents travaux à la fois sur la rive nord et sur la rive sud créent des problèmes, à commencer par Taniata la 20 à hauteur de Taniata dans les deux directions. C'est difficile depuis le début de l'été. Présentement, en direction ouest, c'est entre Taniata et Chemin des Îles, c'est au rouge. En direction est, il y a aussi un ralentissement dans le secteur. L'accès au pont direction nord sur la 73, il y a un petit quelque chose. En 4, direction nord à hauteur de 4 Bourgeois actuellement, c'est dans Habituellement, c'est dans l'autre sens que ça bloque. Présentement, c'est en direction nord, dans le secteur des travaux là, de chemin Sainte-Foy, qui a un ralentissement. Et Laurentienne également, direction sud, pour accéder à Capitale.
Vous écoutez le Point de Max à boulevard 102-1, 10h38, minute au retour. Il y a une histoire de fraude qui retient l'attention ce matin. Ça nous est raconté par Radio-Canada. On en parle avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. 88 971 102-1 si vous voulez nous rejoindre en studio par texto.
Le Point de Max.